franceinter.fr.
Vous êtes présenté par Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Hélène.
On commence avec le journal du dimanche qui a interrogé ce matin le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.
Et la première chose pas si anecdotique que ça que nous apprend le journal, c'est le surnom que certains lui donnent déjà. Le ministre CTRL-Z, cette combinaison sur un clavier d'ordinateur qui vous permet d'annuler ce que vous venez de faire. L'image est assez claire. Jean-Michel Blanquer est accusé de détricoter les réformes précédentes, en particulier celle de Najat Vallaud-Belkacem. Même si lui-même s'en défend, il préfère dire qu'il veut cicatriser quelques plaies et arriver à une position d'équilibre. Cela passe par le retour d'un tiers des écoles à la semaine de 4 jours, le rétablissement de l'ensemble des classes bilingues, la restauration chaque fois que ce sera possible des classes de latin et de grec. Tout ça en ne s'interdisant pas de repenser l'école publique. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer du privé, mais aussi des modèles étrangers et surtout des études scientifiques. Le vrai ennemi du service public, c'est l'égalitarisme, son ami la liberté. La liberté bien conçue favorise l'égalité, promet le ministre. Vous avez 4 heures pour y réfléchir. En fait, la meilleure image pour comprendre sa vision des choses, c'est peut-être en découvrant, à la toute fin de l'interview, sa fable de La Fontaine préférée, le laboureur et ses enfants. Un cultivateur confie à ses enfants qu'il a un trésor caché dans un champ. À sa mort, il remue la terre et ne trouve aucun magot, mais le champ devient de plus en plus fertile. C'est la morale de l'école, selon le ministre. En travaillant, on se crée le plus grand des trésors. À se demander si La Fontaine n'avait pas déjà inventé le slogan « Travailler plus pour gagner plus ».
Ce matin, le journal Le Monde fait quasiment de la zoologie politique.
Oui, le quotidien s'intéresse à une espèce intrigante et inconnue jusqu'alors, le député macroniste. Un animal étrange dont Alexandre Lemarié et Manon Rescan essaient de comprendre le mode de vie à l'Assemblée un mois après la législative. Ce sont donc pour la plupart des novices en politique, séduits par le côté start-up d'En Marche, jusqu'à en reprendre le vocabulaire. Entre eux, ils parlent de team building, de process, de change manager. Ils revendiquent une expérience politique mais se disent pointus sur les domaines techniques et ils n'ont pas le droit de parler à la presse sans le feu vert de la direction de la communication. Comme on utilise de grands concepts comme la bienveillance ou la confiance, cela peut parfois sonner creux, justifie un pilier du groupe, une sorte de pensée complexe, difficile à faire passer en somme. Surtout, ces députés ont le culte de l'efficacité. À les entendre, leur principale mission consiste à faire adopter le plus vite possible les textes de l'exécutif, assure Le Monde. L'un d'eux explique d'ailleurs, les citoyens veulent des résultats le plus rapidement possible, ils s'en foutent de savoir si on dépose des amendements ou pas, quitte à profondément agacer l'opposition, qui les traite de godillots ou de robots, quitte aussi à déstabiliser les anciens mâles et femelles dominants de leur propre groupe. Il y a les 27 sortants d'un côté et les 280 nouveaux de l'autre, se désole le député François-Michel Lambert. C'est comme les redoublants, on se serre les coudes car il y a une défiance de certains nouveaux à notre égard. L'année scolaire commence tout juste, mais elle s'annonce déjà digne des meilleures aventures du petit Nicolas, celui de Sempé et Goscinny bien sûr. Justement, le journal du dimanche revient sur un des couacs de ce début de quinquennat, la démission cette semaine du général Pierre de Villiers. Le journal l'évoque avec la ministre des Armées, Florence Parly, en interview, mais en raconte aussi les coulisses. François Clémenceau explique que le fameux « Je suis votre chef » d'Emmanuel Macron aux militaires a été ressenti comme une humiliation par Pierre de Villiers. Lorsqu'on gifle le chef d'état-major, on le prive de fait de son autorité, explique un spécialiste. S'il avait reculé, il aurait perdu toute crédibilité aux yeux de ses hommes, assure aussi l'un de ses frères d'armes. L'article revient également sur le rôle discret de Jean-Yves Le Drian, persuadé qu'il pouvait organiser une cohabitation, d'autant que la promesse d'un budget de 34 milliards d'euros en 2018 lui paraissait plus qu'honnête. Comme le dit un proche des deux hommes, il aurait été heureux, Le Drian, d'avoir une telle enveloppe s'il était resté à son poste.
Et c'est une drôle de question ça. Et si nos avions se mettaient à faire la ronde ?
Alors ça a l'air un peu bizarre, mais Libération nous raconte aujourd'hui l'histoire d'un projet qui, lui en tout cas, tourne en rond. Celui de la piste sans fin qui pourrait un jour entourer les aéroports. L'idée est née dans le cerveau d'un chercheur néerlandais, Hans Hesselink, persuadé qu'une piste d'atterrissage et de décollage parfaite circulaire et légèrement incurvée permettrait aux aéroports de mieux gérer les vents de travers qui compliquent le départ et l'arrivée des avions, mais aussi de moins user les roues et de faire décoller ou atterrir jusqu'à 4 avions en même temps sur la même piste. Le projet est tout sauf utopique. En 2014, il a même été présenté très officiellement devant la Commission européenne et depuis, plus rien, presque aucune nouvelle. Alors il faut dire que ça coûte cher, de 10 à 60% de plus que pour construire un aéroport classique. Mais Hans Essling, nous dit Libération, ne désespère pas, il est persuadé qu'un jour on finira par concrétiser son fameux manège à avion. Est-ce que vous connaissez le surnom de Luc Besson, Hélène?
Ah non.
Alors on dit souvent que c'est le plus américain des réalisateurs français. Donc forcément, ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'ils en pensent, les Américains, quelques jours après la sortie de son dernier film, Valérian et la cité des mille planètes. Rachel Donadio du New York Times rappelle aujourd'hui qu'à l'époque de la sortie du cinquième élément, son journal résumait le film ainsi avec une pointe d'ironie, « Le monde sauvé par une femme à poil, c'est cool ». Elle rencontre donc le réalisateur cette semaine et elle résume tout dans son accroche d'article « Valérian est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français ». Et alors, nous dit Luc Besson. Les films de Besson sont conçus pour plaire et pour attirer l'attention sur toutes les plateformes. Valérian semble génétiquement conçu pour rapporter de l'argent, explique la journaliste. Dans le dossier de presse, on nous indique même combien d'abonnés Instagram ont les deux actrices principales. Alors, Luc Besson, lui, se voit plutôt, elle le dit, comme un marchand de rêves et de rêves positifs et sucrés. Il y a trop de films de science-fiction qui sont sombres, dit-il. Il pleut, les aliens sont méchants. Or, le futur est une page blanche. Pourquoi y projeter autant de pessimisme ? Une philosophie joliment résumée dans ce petit détail glissé par Rachel Donadio. Tout en lui parlant de son film, Luc Besson est en train de verser abondamment du miel dans son thé. Tout un symbole.
Et en une de l'équipe ce matin, on voit le visage éprouvé, la grosse fatigue de Romain Bardet.
Il est fatigué forcément, le cycliste français, pas seulement physiquement d'ailleurs. Sur cette photo, on le voit assis, presque affalé sur le sol, ruisselant de sueur, le regard un peu perdu. D'un souffle, titre le journal, d'un souffle, cette fameuse petite seconde qui lui a permis hier de garder sa place sur le podium pour l'instant au terme de sa pire journée dans le Tour. Face à tant de désarroi, l'équipe se demande même s'il ne faudrait pas rendre hommage à l'esprit tordu qui décréta un jour que la frontière entre la 3e et la 4e place marquait celle entre les vainqueurs et les perdants. En parlant de Tour de France d'ailleurs, Titiou Lecoq raconte de façon assez savoureuse aujourd'hui sur Slate sa tentative ratée de se réconcilier avec la grande boucle. Elle a analysé les arguments de ses amis qui eux sont accros et elle s'est rendue compte qu'il y avait trois explications principales. Le dépassement de soi, les paysages et la tradition familiale. Je regardais avec mon grand-père. Or, la journaliste a elle-même un triple blocage. Elle le dit, ma grand-mère regardait les feux de l'amour. Si je veux voir de beaux paysages, je regarde des racines et des ailes et j'ai du mal à percevoir le sublime de ses performances parce que je ne sais pas faire de vélo. Surtout, elle s'agace que le Tour soit un truc tellement antique qu'on y retrouve une vieille dichotomie. Les hommes accomplissent des exploits, ils sont forts et courageux. Les femmes sont en robe, remettent des coupes en souriant, elles sont jolies et joli. Pour arriver à cette conclusion, si le Tour de France c'est une affaire d'hommes, alors pourquoi ce ne sont pas juste des mecs qui remettent des maillots à d'autres mecs? On ne saurait trop vous recommander de lire ce billet sur Slate qui est vraiment très très drôle. Attention quand même, sachez que ça se termine avec une sombre histoire de vampires et d'ornithorynques géants amateurs de cyclistes. Vous êtes prévenus.
Oh là là, bah oui, merci beaucoup Olivier Bénis. Et puis sachez quand même qu'il y a des femmes qui vont pédaler ce matin à Paris, qu'on se rassure, c'est ouvert aussi à elles le cyclisme. Il est 8h38.